Merci Jean Lebrun, bonjour à tous et bienvenue dans Les Nouveaux Chemins. Deuxième épisode ce soir d'une traversée de la pensée d'Alexis de Tocqueville. Hier, nous étions en compagnie de Lucien Jaume, dont la biographie de Tocqueville, récemment parue chez Fayard, propose un panorama intellectuel du sociologue. Aujourd'hui, ce soir, tout de suite, c'est en compagnie de Françoise Mélogneau, professeure de littérature et responsable de l'édition des œuvres complètes de Tocqueville chez Gallimard, 30 volumes s'il vous plaît, que nous allons poursuivre cette réflexion autour d'Alexis de Tocqueville en général et de la question religieuse en particulier. La religion voit dans la liberté civile un noble exercice des facultés de l'homme, dans le monde politique, un champ livré par le Créateur aux efforts de l'intelligence. La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses triomphes, le berceau de son enfance, la source divine de ses droits. Elle considère la religion comme la sauvegarde des mœurs, les mœurs comme la garantie des lois et le gage de sa propre durée. C'est Tocqueville qui le dit. Bonsoir Françoise Mélogneau.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Alors, il est d'usage, on peut le dire, d'opposer aujourd'hui l'esprit démocratique à l'esprit religieux. Or, Tocqueville, à contre-courant de son époque et donc de la nôtre, concilie manifestement esprit démocratique et religieux en reconnaissant au second, arrêtez-moi si je dis des bêtises, le mérite, me semble-t-il, de permettre à la fois l'égalité et la liberté, ou la liberté dans l'égalité. Alors, sur quoi repose cet argumentaire surprenant tocquevillien en faveur du fait religieux, Françoise Mélogneau?
Ça repose sûrement sur l'expérience américaine du voyage de 1831-1832, parce que écrire que la religion favorise l'exercice de la liberté politique, pour un Français du 19e siècle, c'était tout à fait surprenant. En France, on considérait que la religion, et surtout la religion catholique, c'était tout à fait néfaste au progrès de la démocratie. Et donc, c'est en allant aux États-Unis que Tocqueville découvre une société qui est à la fois une société protestante et une société démocratique. Et de ce point de vue, il voit ce qui est encore une originalité des États-Unis par rapport à nous, c'est le caractère profondément religieux de cette société.
On voit d'ailleurs comment cette démarche s'articulera avec l'Ancien Régime et la Révolution, dans lequel Tocqueville reprochera aux révolutionnaires d'avoir voulu finalement couper les ponts avec l'Ancien Régime, avec les leçons de l'Ancien Régime, et donc rompre avec l'idéal religieux. On parlait d'ailleurs avec Lucien Jaume du fait que chez Tocqueville, plus exactement en Amérique, l'Amérique n'avait pas eu besoin d'une révolution pour être démocratique.
Non, parce qu'au fond, elle a laissé les aristocrates de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont repartis ou ils se sont assimilés. Mais on pourrait dire que l'Amérique a eu besoin d'une sorte de révolution avec la guerre civile. Donc,
c'est ça, voilà. Mais la révolution est intervenue à ce moment-là. Alors, donc, ce qui est frappant, c'est que Tocqueville, donc de voyage en Amérique, découvre que la religion peut servir les Lumières, que le respect des lois divines peut favoriser la liberté. Voici ce qu'il dit. La religion, donc, alors il explique, pardonnez-moi, plus exactement, on l'a lu tout à l'heure, que la religion est la sauvegarde des mœurs. Les mœurs sont la garantie des lois et le gage de sa propre durée. En d'autres termes, est-ce que l'utilisation que Tocqueville fait de la religion est une utilisation pragmatique, au sens où la religion a une fonction dans la société et qu'il faut la préserver à ce titre, ou bien est-ce que ça va au-delà?
Alors, il est vrai que son point de vue, c'est d'abord le point de vue pragmatique. Il traite la religion comme une institution politique. Et donc, la question est de savoir pourquoi une société démocratique a besoin d'une religion et pourquoi il faut une religion pour combler la nature humaine. Donc, indiscutablement, ça n'est pas un théologien. Il ne part pas d'une révélation. Il part vraiment du point de vue de l'homme et de son utilité, comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains. Et c'est là qu'il est dans une perspective sociologique et politique. Ça, c'est tout à fait sûr. Ça ne veut pas dire que la religion soit uniquement une façon de faire tenir tranquille le peuple.
C'était la question que j'allais vous poser, Françoise Mélogneau. Qu'est-ce qui distingue Alexis de Tocqueville de ceux qui, par exemple, comme Spinoza ou comme Schopenhauer, s'en prennent à la transcendance, à l'idée de transcendance, donc ont un discours ontologique contre l'idée de transcendance, mais sont également les défenseurs du fait religieux au motif que, alors pour Schopenhauer, la religion offre des consolations indispensables dans la misère de l'existence, ou bien chez Spinoza, la religion, il reprend la phrase de Quincunx, permet de domestiquer la multitude.
Pour Tocqueville, d'abord, pour faire croire le peuple, il vaut mieux croire soi-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout partisan d'une coupure entre les croyances de l'élite et les croyances du peuple, même si la religion des élites est plus éclairée ou plus rationnelle. Et puis, le but de la religion n'est pas, au fond, de faire tenir tranquille la multitude. Il est vrai que la religion constitue un frein au dérèglement de l'imagination, mais le but de la religion, c'est surtout d'éviter que les gens ne s'engloutissent dans la recherche de l'argent, du bien-être matériel, etc. Donc ça n'est pas de faire de l'ordre, à la limite c'est d'empêcher que les sociétés ne soient trop ordonnées dans la pure recherche du bien-être. Autrement dit, la religion, c'est au moins autant une espérance et un facteur de contestation de l'ordre majoritaire que un facteur d'ordre.
Oui, alors c'est tout à fait étonnant, mais là où ce que vous dites est frappant, c'est dans le rapport qu'il établit entre la religion et l'égalité. Tocqueville est le penseur de cette passion de l'égalité et des vices inhérents à la passion de l'égalité. C'est la valeur ajoutée de la démocratie en Amérique et également de son texte sur l'Ancien Régime et la Révolution. Donc Tocqueville est un penseur de l'égalité. Et pourtant, il fait valoir le fait qu'en religion, nous sommes égaux devant Dieu. Alors comment concilier le fait que la religion produise de l'égalité tout en étant le penseur qui déconstruit justement l'égalité au motif qu'elle engendre chez les hommes la haine les uns des autres, le goût de la concurrence, etc.
Oui, mais la religion non seulement conduit à penser que les hommes sont égaux devant Dieu, mais Tocqueville va plus loin puisqu'il dit « Dans la pensée de Dieu, il est bon que les hommes soient autonomes et donc également libres. » Autrement dit, ça n'est pas seulement l'égalité devant Dieu qui est dans le plan providentiel, c'est aussi une forme d'égalité dans la dignité et dans la participation politique. Et lorsqu'il montre les tendances perverse de l'égalité, il fait en même temps de la religion un moyen de la corriger. C'est-à-dire que la religion n'est pas le contraire de l'égalité. Elle est ce qui permet que l'égalité soit bien réglée et au fond conforme au plan providentiel.
Est-ce qu'on peut dire que la religion finalement offre à la loi démocratique, en plus d'elle-même, la ressource d'une transcendance véritable, qui finalement permet aux hommes de se soumettre à la loi ?
Oui, parce que en fait,
dans la mesure où le fait de se soumettre à la loi serait la condition de leur liberté, justement.
La religion va même un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que non seulement elle permet de régler l'égalité, mais elle est aussi ce principe extérieur à la société politique qui permet en fait de faire appel, c'est-à-dire que contre une décision injuste. Il y a une conscience morale qui s'appuie sur la religion pour contester l'ordre majoritaire. Donc elle permet non seulement d'obéir à la loi en tant qu'elle prône le civisme, etc., mais elle permet aussi de séparer ce qui est légal et ce qui est légitime.
Alors Tocqueville est le penseur de ce qu'on a appelé l'atomisation du corps social, après lui, du fait en somme, d'ailleurs on en fait souvent indûment un penseur ultra-libéral, enfin ses contempteurs le désignent comme ça, alors que Tocqueville est un penseur du remède justement à l'ultra-libéralisme, c'est-à-dire au repli exclusif sur la sphère privée. Il explique que plus on se replie sur la sphère privée, plus on laisse libre cours à l'arrivée des tyrans, des tribuns de la plèbe, etc., etc., et que par conséquent il appartient aux citoyens d'investir l'espace laissé vacant entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et à ce titre, il est un penseur de l'association, sous toutes ses formes, partis politiques, journaux, syndicats, etc. Puisque Tocqueville tient les associations pour un pouvoir intermédiaire entre l'individu et l'État, puisqu'il leur donne ce rôle-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché, finalement, de la même manière, si quelque chose ne pourrait pas faire office de religion pour les temps modernes ? Pourquoi a-t-il eu besoin de recourir à la religion, justement ?
Alors, c'est vrai que sa crainte première, c'est ce qu'il appelle l'atomisation, la réduction en poussière de la société. Là, c'est un sentiment qui est très fréquent au début du 19e et qui est d'ailleurs notre sentiment encore. C'est-à-dire ce dont il a peur, c'est l'individualisme. Et on voit bien que toutes les analyses contemporaines de l'individualisme aujourd'hui sont très inspirées de la pensée de Tocqueville. Donc, comment faire pour que les gens aient des idées communes ? Et certes, on peut avoir des idées communes grâce aux journaux, grâce aux associations, etc. Mais la religion est un moyen particulièrement efficace d'avoir durablement des idées communes, parce que la religion, c'est un principe de stabilité. Alors que les associations, journaux, etc., peuvent être pris dans l'extraordinaire mobilité des sociétés contemporaines.
Et en même temps, chez Tocqueville, on en parlait hier avec Lucien Jaume, aristocrate de cœur et démocrate de tête. Finalement, cet homme-là appréhende la nouveauté démocratique malgré tout à contre-cœur et donc fait valoir quand même le maintien d'une attitude qui est celle de l'Ancien Régime. Avec la religion, non? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que cette critique qu'on formule à son endroit est recevable?
Mais c'est vrai que la démocratie ne le plonge pas dans une béatitude absolue.
Quand non, on regarde, c'est la fin de la grandeur. Hein,
c'est la fin de la grandeur. Il va même plus loin. Quand il, à la fin de la démocratie en Amérique, il explique que le spectacle de tous ces individus petits et semblables le glace absolument. Mmh. Et donc, au moins esthétiquement, la démocratie ne le comble pas. Elle manque aussi de sens de l'héroïsme. C'est un lecteur de Plutarque, c'est quelqu'un qui a le goût de l'héroïsme. Donc ça ne le comble pas. Mais ce qu'il cherche dans la religion, ça n'est pas exactement un retour à l'Ancien Régime. C'est trouver une grandeur qui soit équivalente à ce qu'il y avait sous l'Ancien Régime. Au fond, c'est jamais quelqu'un qui plaide pour un retour. Il en aurait peut-être envie par certains côtés, mais de toute façon, il pense que c'est absolument impossible. Et il a toujours dit...
Il n'est pas réactionnaire. Il est antimoderne, si on veut.
Il n'est pas réactionnaire du tout, et je crois qu'il n'est pas antimoderne.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'est sûrement pas réactionnaire parce qu'il considère d'abord que ce serait inutile, et ensuite... que le régime démocratique a cette grandeur de permettre à tous les individus d'accéder à l'autonomie et à la liberté. De ce point de vue, si vous voulez, la démocratie est un régime qui accède à la vraie conception de la liberté, sous réserve qu'elle soit bien gouvernée. Et donc la religion, il ne s'agit pas de revenir, même s'il en a une certaine nostalgie, au pasteur entouré de ses fidèles paroissiens de la communauté d'Ancien Régime. Ça, il sait très bien que c'est terminé. Même en Normandie, c'est déjà terminé.
Et donc son... Normandie, il est normand. Hein.
Il est normand, voilà. Il est normand et dans l'église de la paroisse, il y a des bancs seigneuriaux où le curé aimerait bien qu'il aille s'installer. Mmh. Et Tocqueville refuse en disant l'âge où les seigneurs allaient se mettre en tête de tous les paroissiens, c'est terminé.
Les hommes religieux combattent la liberté, et les amis de la liberté attaquent les religions. Des esprits nobles et généreux vantent l'esclavage, et des âmes basses et serviles préconisent l'indépendance. Des citoyens honnêtes et éclairés sont ennemis de tous les progrès, tandis que des hommes sans patriotisme et sans mœurs se font les apôtres de la civilisation et des Lumières. Tel est le portrait que dresse Tocqueville de la France révolutionnaire, une France livrée à elle-même, finalement, qui a voulu se séparer de ce qui l'a précédée, une France devenue folle, et Tocqueville de faire valoir ensuite Françoise Mélenchon. Que le christianisme, contrairement à ce qu'on pense, qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu, ne répugnera pas à voir les citoyens égaux devant la loi. Quel précédent historique justifie une telle position, hormis l'expérience du sociologue aux États-Unis ?
Mais là aussi, je crois que l'expérience américaine a été déterminante, y compris sur les catholiques, parce que ce qu'ils voient aux États-Unis...
Parce que c'est quand même 12 millions d'hommes, je veux dire. Hein. C'est, oui. Ils légifèrent, ou ils parlent, ou ils diagnostiquent quelque chose à partir d'une communauté restreinte.
Oui, mais ce qui le frappe beaucoup, ce sont les catholiques irlandais aux États-Unis. Et il montre que les catholiques irlandais sont démocrates, d'abord parce qu'ils sont pauvres, ce qui aide beaucoup à être en faveur de l'égalité, et aussi parce qu'ils entrent eux-mêmes dans l'univers américain, c'est-à-dire qu'ils participent finalement de l'esprit égalitaire protestant de la communauté dans laquelle ils s'implantent. Et à partir de cet exemple des Irlandais, si vous voulez, il en conclut que le catholicisme n'est pas incompatible avec la démocratie.
Alors effectivement, Tocqueville, au sein du christianisme, accorde très clairement sa préférence au catholicisme. Il dit, chez les catholiques, la société religieuse se compose de deux éléments, le prêtre et le peuple. Le prêtre s'élève seul au-dessus des fidèles, tout est égal au-dessous de lui. Et si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance, il ne les prépare pas à l'inégalité. Et il dit le contraire du protestantisme, qui porte en général moins les hommes vers l'égalité que vers l'indépendance. Et il dit le catholicisme est comme une monarchie absolue, ôtez le prince et les conditions y sont plus égales que dans les républiques.
Oui, là, comme il écrivait pour une France catholique, on peut soupçonner qu'il adaptait son discours à ses lecteurs parce que lui-même avait tout de même quelques doutes sur la possibilité d'accommoder facilement le catholicisme à l'égalité. Son raisonnement, bon, à partir de ce que lui a donné à penser les Irlandais, c'est qu'au fond, dans le catholicisme, effectivement, tout le monde est égal sous la tutelle du clergé. Et donc, on a bien une forme de société égalitaire, ce qui allait absolument contre tout le sentiment de ses contemporains. Alors, le malheur de Tocqueville, c'est que pratiquement, le catholicisme en France, il était quand même surtout répandu chez les adversaires de la démocratie.
Oui, effectivement. Et alors, ce qui est là l'autre paradoxe chez Tocqueville, dont on se dit que c'est un... C'est un fol en Dieu, à l'écouter parfois ou à le lire, et qu'en même temps, Tocqueville est un penseur de la laïcité. Il était favorable à la séparation de l'Église et de l'État. Il reconnaissait d'ailleurs aux Américains le mérite, justement, d'avoir mis ça en œuvre.
Oui, il y est favorable dans l'intérêt même de l'Église, comme l'amenait avant lui, parce que si l'Église se compromet avec des pouvoirs politiques dont tout le monde peut voir en France, qui sont généralement instables et renversés par des révolutions assez rapprochées, mais à ce moment-là, l'Église se condamne elle-même. Et donc, si l'Église veut jouer le rôle de la stabilité, il faut surtout qu'elle évite de se mêler d'une politique qui, en France, est particulièrement agitée et mobile.
Donc ça veut dire que Tocqueville trouve excellent que la religion exerce ses normes, les normes qu'elle propose dans la sphère familiale, par exemple, remettre la femme à sa place. Il y a des textes de Tocqueville qui sont objectivement misogynes. Enfin, misogynes, tout, c'est peut-être anachronique de le dire, mais après tout, la Révolution française était passée par là. On peut parler de misogynie, là. Il y a des textes donc, de Tocqueville où il fait valoir le fait que la religion donc, maintient la femme à sa place, mais en même temps, il admet sans réticence que la religion ne puisse plus se mêler directement du gouvernement de la société. Est-ce qu'on peut dire que Tocqueville considère que la religion, c'est une institution qui facilite finalement l'usage de la liberté ?
Oui, je crois qu'indiscutablement, on peut le dire. Elle facilite l'usage de la liberté sous réserve qu'elle ne cherche pas à exercer un pouvoir politique. Il est extrêmement méfiant à l'égard de ce qu'il appelle le parti catholique, c'est-à-dire la constitution d'un parti religieux qui influerait sur la politique. Et il est aussi très méfiant face à l'emprise de l'Église sur l'éducation. Je dirais que c'est au moment de Tocqueville qu'on voit apparaître de façon très virulente les grands combats sur l'emprise de l'Église sur l'enseignement catholique.
C'est la naissance de l'école républicaine.
C'est tous les problèmes de la liberté de l'enseignement. Il est favorable à la liberté de l'enseignement et à un enseignement privé, mais il n'est pas favorable à ce que l'Église catholique ait le monopole de l'enseignement privé.
C'est le grand paradoxe de cet homme qui dit quand même comment la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis que le lien politique se relâche, le lien moral ne se resserrait pas. Que faire, dit-il, d'un peuple maître de lui-même s'il n'est pas soumis à Dieu? Et en même temps, Tocqueville est celui qui reconnaît par exemple au catholicisme la supériorité définitive sur l'islam, au motif que Mahomet a fait descendre du ciel et placer dans le Coran, c'est lui qui le dit, des doctrines religieuses, des maximes politiques, des lois civiles et des théories scientifiques, alors que l'évangile, au contraire, ne parle que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux.
Oui, l'originalité de Tocqueville, c'est qu'il a lu le Coran assez tôt, en 1838, donc c'était assez peu de temps après.
Donc ce n'est pas une lecture de seconde main.
Non,
c'est un lecteur du Coran.
C'est un lecteur du Coran, enfin, en tout cas, il a lu les 18 premières sections. Mm-hmm. Et ce qu'il frappe dans le Coran, puisqu'on a gardé des notes de lecture, c'est d'abord l'extrême minutie des prescriptions que donne le Coran, qui lui rappelle d'ailleurs plutôt l'Ancien Testament. Autant l'Évangile lui paraît avoir une généralité qui permet de l'adapter à toutes les sociétés, autant l'Ancien Testament est très précis. Et le Coran, comme l'Ancien Testament, descend dans le détail de la législation, de la famille, etc. Et cela, pour Tocqueville, c'est s'empêcher un véritable progrès des sociétés, parce que ça bloque l'évolution des sociétés que d'avoir tant de prescriptions dans un texte sacré.
Non, le diable est dans les détails.
Exactement.
En fuyant les détails, l'évangile n'enseigne rien, n'oblige à rien croire. Il continue, il dit « Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces deux religions, c'est-à-dire l'islam, ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumière et de démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles, comme dans tous les autres. Quelle place faites-vous à cette prédiction de Tocqueville, Françoise Meloniaux ?
À vrai dire, les deux sont fausses. C'est-à-dire que, somme toute, dire que l'islam ne pouvait durablement régner n'est guère juste, et Tocqueville lui-même s'en est aperçu lorsqu'il est allé en Algérie, puisqu'il y est allé deux fois, en 1841 et 46, et il se rend compte que l'opposition des différentes tribus s'enracine finalement dans ce qu'elles ont de commun, c'est-à-dire l'islam. Et il voit très bien qu'il se forme un islam politique qui est la grande force de résistance au monde occidental. Mmh. Donc de ce point de vue, lui-même est revenu sur l'idée que l'islam ne s'adapterait pas, puisque l'islam devient une grande force d'opposition politique moderne.
Oui, allez-y.
Alors, quant au destin, à l'avenir du catholicisme, de son vivant, il s'est trompé. On peut dire autrement aujourd'hui, mais de son vivant, finalement, il a eu le malheur le pire pour un esprit philosophique. Il est devenu ministre. Et là, ça a très mal tourné, puisqu'en 1849, il a été celui qui a dû prendre la responsabilité du rétablissement du pape sur son trône contre les républicains romains. Pour lui, ça a été un drame épouvantable, puisqu'au fond, il a contribué à rétablir un pouvoir temporel des papes qu'il estimait dangereux pour la survie de l'Église en tant que pouvoir spirituel.
Oui, c'est-à-dire que pour lui, en fait, la disqualification temporelle de l'Église, d'ailleurs telle que la Révolution française avait pu la permettre, loin d'être un handicap, était plutôt une chance pour la cause religieuse.
Tout à fait. En ce sens, il
pour la cause démocratique aussi, justement.
Oui, donc il anticipe ce qui a finalement été l'attitude des catholiques après la séparation de l'Église et de l'État, qui se sont aperçus que ça n'avait pas été néfaste du tout à l'évolution du catholicisme.
C'est dire donc que pour Tocqueville, encore une fois, la religion est un sentiment naturel à l'homme. Je ne sais plus où est le texte, donc je le dis de mémoire, mais qu'en somme, l'incrédulité est l'exception et la foi est la norme en tout homme. Et disant cela, il montre que la religion permet finalement de soustraire l'homme démocratique aux jouissances immédiates auxquelles il a désormais droit.
Oui, mais en même temps, il est très inquiet pour l'avenir des religions en général, parce que il lui semble qu'il y a un désenchantement qui est lié au mouvement même de la démocratie. C'est-à-dire que finalement, comme la plupart des individus s'occupent surtout à gagner leur vie, ce qu'ils sont d'ailleurs bien obligés de faire puisque ce sont des classes moyennes, ils oublient le religieux et donc ça n'est pas tant que la religion est contestée dans ses principes, c'est qu'elle est abandonnée.
Elle est abandonnée, mais elle est abandonnée par son utilisation excessive, par son application aux sphères pratiques de l'existence. En somme, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on a le sentiment qu'il reconnaît à la religion le mérite, par exemple, d'ordonner la famille, de maintenir donc les femmes à leur place, comme il dit, comme il laisse entendre. Il le dit explicitement, on a le sentiment qu'il se sert de la religion, finalement, pour donner aux individus, soustraire l'individu démocratique plein de droits nouveaux, du seul goût des jouissances immédiates, de la jouissance désespérée, de l'ici et du maintenant, etc., etc., etc. Et en même temps, cet usage pragmatique de la religion, il le voit comme un péril.
Oui, il le voit comme un péril parce qu'une religion qui serait instrumentalisée perd toute efficacité. Pour que la religion soit efficace, il faut qu'elle soit clairement en dehors de l'espace politique et qu'elle suscite précisément le désir d'autre chose. Donc la réduire à son utilité, c'est lui faire perdre sa dimension d'hétéronomie.
D'hétéronomie, c'est-à-dire le fait, étymologiquement, de recevoir sa loi d'un autre, d'un ailleurs.
Oui, ce qui est d'ailleurs extrêmement important, parce que face au despotisme, la religion est un pouvoir de recours.
L'instabilité de l'état social, dit-il, vient favoriser l'instabilité naturelle des désirs. Au milieu de ces fluctuations perpétuelles du sort, le présent grandit. Il cache l'avenir qui s'efface et les hommes ne veulent songer qu'au lendemain. Dans ce pays, la France, où par un concours malheureux, l'irréligion et la démocratie se rencontrent, les philosophes et les gouvernants doivent s'attacher sans cesse à reculer aux yeux des hommes l'objet des actions humaines. C'est leur grande affaire. Dans tous les temps, il importe que ceux qui dirigent les nations se conduisent en vue de l'avenir, mais cela est plus nécessaire encore dans les siècles démocratiques et incrédules que dans tous les autres. En somme, la religion rend aux hommes le goût de l'avenir.
Oui, le goût des longs désirs et des vastes pensées, pour prendre le vocabulaire habituel à Tocqueville. C'est pour ça qu'un dramaturge de la fin du XIXe siècle, qui voulait ridiculiser la pensée de Tocqueville, dit d'après Tocqueville, le temps perdu est du temps gagné. Parce que précisément, il faut sortir du présent. La religion, c'est ce qui permet de lier les générations entre elles, par exemple. Alors que la démocratie coupe les enfants des parents. Chaque génération est comme une génération nouvelle.
Donc, oui, alors que l'aristocratie maintenait justement ce fil. C'est la différence qu'il fait entre l'individualisme et l'égoïsme.
Voilà, c'est pour ça qu'une religion est plus utile en démocratie qu'en aristocratie.
Parce que finalement, elle est tautologique en aristocratie.
Mais parce qu'en aristocratie, la structure sociale maintient le long terme par elle-même, par l'aristocratie même, si vous voulez. Alors que dans une démocratie, on a besoin d'un élément de long terme qui n'est pas donné par la démocratie même.
Donc la religion au sein de la démocratie, c'est quand même un corps étranger à la démocratie. C'est en cela qu'elle est utile. Ce que je veux dire, c'est que Tocqueville ne cesse de faire valoir la nécessité de la religion en démocratie, précisément parce que la religion, bon lapsus, n'est pas démocratique.
Parce qu'elle est...
Est-ce qu'on peut dire ça ?
Elle est en dehors de l'espace démocratique proprement dit, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas démocratique, puisque l'égalité est en fait dans l'évolution providentielle de l'humanité. Mais il est vrai qu'elle fait contrepoids en même temps à cette tendance de la démocratie à ne s'occuper jamais que du très court terme, à ne s'occuper jamais que de la génération présente, à sacrifier l'avenir, à oublier le passé.
Alors j'ai retrouvé le texte dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un texte si beau qu'il mérite qu'on le lise. Vous avez beaucoup travaillé d'ailleurs sur Tocqueville, écrivain, Françoise Mélogniaux, et effectivement, Tocqueville était un écrivain merveilleux. Ce texte le prouve. Écoutez, jamais le court espace de 60 années ne renfermera toute l'imagination de l'homme. Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais à son cœur. Seul entre tous les êtres, l'homme montre un dégoût naturel pour l'existence et un désir immense d'exister. Il méprise la vie et craint le néant. Ses différents instincts poussent sans cesse son âme vers la contemplation d'un autre monde et c'est la religion qui l'y conduit. La religion n'est donc qu'une forme particulière de l'espérance, et elle est aussi naturelle au cœur humain que l'espérance elle-même. C'est par une espèce d'aberration de l'intelligence, et à l'aide d'une sorte de violence morale exercée sur leur propre nature, que les hommes s'éloignent des croyances religieuses, une pente invincible les y ramène. L'incrédulité est un accident, la foi seule est l'état permanent de l'humanité. Françoise Mélogniaux, qu'est-ce que Tocqueville dirait aujourd'hui, par exemple, de la notion de laïcité positive, telle que le président de la République a voulu la développer ?
C'est difficile de faire une projection sur une situation qui est extrêmement différente.
La lecture de Tocqueville nous invite quand même à comprendre.
Mais oui, en effet.
Alors... Parce que le président de la République a dit que l'espérance est au cœur de chaque homme et que l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent. C'est une phrase qu'on pourrait trouver chez Tocqueville.
Oui, tout à fait. Mais Tocqueville dit en même temps très nettement que les gouvernants ne doivent en aucun cas donner des leçons de religion à leurs concitoyens et qu'ils doivent donner le goût de la religion en la pratiquant eux-mêmes et non pas en l'enseignant de façon officielle. Il est extrêmement hostile à tout enseignement officiel de la religion puisque ça va contre le but recherché.
C'est ça. Néanmoins, la religion telle qu'elle a donc une utilité qui est une utilité immédiate, mais en même temps contradictoire.
Oui. Et si on empêche les gens d'être religieux, à ce moment-là se développent des sectes qui permettent finalement aux sentiments religieux brimés de s'exprimer.
New York Requiem de Meredith Monk. Pour terminer cette émission avec vous, Françoise Mélogniaux, en vous remerciant d'être venue nous voir et de nous avoir donné à comprendre que le fait religieux chez Tocqueville ou la défense du fait religieux n'était ni l'œuvre d'un réactionnaire, ni encore moins évidemment l'œuvre d'un fanatique. au contraire. Donc je rappelle que c'est sous votre direction que les œuvres complètes d'Alexis de Tocqueville ont été publiées chez Gallimard, 30 volumes donc. Pour approfondir un peu ces débats sur la question religieuse, le rôle de la religion ou la nécessité ou de la transcendance, je renvoie l'auditeur par exemple à l'avant-propos du traité théologico-politique de Spinoza, dans lequel la critique de la transcendance est présentée comme la condition d'un état où toutes les croyances sont possibles. C'est un texte important pour comprendre la laïcité. Demain, rapidement, on parlera d'un autre livre de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, en compagnie de Éric Thiel, qui collabore notamment à la revue Cause Commune, dont je vous redirai un mot demain à la technique aujourd'hui. C'est Emmanuel Rose à la réalisation, François Connac, assistante Avril Ventura, Marion Richet, Geneviève Méric, à qui cette émission est dédiée car c'est aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire Geneviève, de la part des Nouveaux Chemins, comme de tous ceux qui ont eu un jour la chance de travailler avec vous. Rendez-vous demain à 19h30 pour la suite de ces émissions sur Tocqueville dans les Nouveaux Chemins. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve à Voix Nue sur France Culture.